Il est à présent l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée sur les ondes de Radio Escapade en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, bon, on va parler un peu d'eau, mais de façon plus ou moins directe, notamment parce que Valérie Arrault, qui est une aventurière, c'est vraiment le mot qu'on puisse donner à cette personne qui a fait de son engagement dans le sport et la nature bien une discipline de vie, qui se retrouve quelques années plus tard dans son livre « Dadji » fait avec Joël Alessandra et qui est sous-titré « De Dakar à Djibouti à la rencontre de la grande initiative verte panafricaine ». À travers un récit autobiographique, celui donc d'un périple de 8000 km le long de la Grande Muraille Verte, comme elle est familièrement appelée, bien qu'elle n'ait rien d'une muraille, Élodie Arrault nous entraîne dans l'Afrique contemporaine, porteuse de projets de reforestation, grâce à cette Grande Muraille Verte, au pays en proie à l'instabilité politique et la guerre. Nous serons donc avec Élodie Arrault à partir de 14h15. A tout de suite.
Écriture dessinée.
Bonjour à toutes et à tous. Alors le terme de best-seller n'a pas la même résonance selon l'éditeur qui le publie. Lorsque vous êtes une grande maison d'édition, c'est évident que les best-sellers apportent une trésorerie et ils ont tendance à s'enchaîner et ça permet à la maison d'édition de prendre de l'ampleur, de grandir. Lorsqu'on est une petite structure éditoriale, une maison d'édition qu'on dit souvent indépendante, mais certains n'aiment pas trop ce terme parce que est-on vraiment indépendant de son banquier ? Et pour les maisons d'édition, c'est pas une mince affaire. Et pour ces petite structure éditoriale, c'est parfois même difficile. Et à chaque fois qu'on retrouve tel ou tel, on est plutôt satisfait qu'il ait pu passer des zones parfois difficiles. Un best-seller, là, dans une maison d'édition de ce type-là, eh bien, c'est une aubaine, parce que ça apporte effectivement une trésorerie, mais qui va non seulement donner beaucoup plus de facilité pour faire des projets et continuer une ligne éditoriale exigeante, mais ça va vraiment, en plus, apporter une trésorerie et permettre vraiment à la maison d'édition de voir l'avenir différemment. Les éditions Six Pieds sous Terre ont vécu ce principe du best-seller avec Zaï 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 de Fab Caro, qui est sorti en 2015. Et donc là, ça a été un succès, un véritable succès. Il y a eu des rééditions assez rapides et puis elles ont continué à s'amplifier. Et pour fêter ça, parce que vraiment ça se fête, eh bien, les éditions Six Pieds sous Terre ont édité une édition anniversaire. Alors très souvent, ça n'existe pas dans les grandes maisons, la réédition anniversaire, on va juste avoir un bandeau, peut-être une nouvelle couverture. Mais là, ils ont quand même bien fait les choses. Puisque Fab Caro a invité ses amis, aussi bien amis de la maison d'édition Six Pieds qui publie avec eux, mais c'est aussi des amitiés de collaboration, des amitiés toutes simples. Et ils sont intervenus dans le récit, et donc on a un zaï 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 augmenté, commenté par une dizaine d'auteurs, avec la bénédiction de Fab Caro lui-même, puisqu'il a participé à ces ajouts. Et puis, il y a tout un développement, une fois le livre, le récit terminé, après l'épilogue, on a toute une partie avec l'adaptation théâtrale qui a eu lieu de Zaï 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 Zaï, avec donc des présentations, des interviews, des textes qui permettent de découvrir comment cette adaptation a été pensée, mise en scène. Et là, c'est un complément essentiel parce que c'est peu fréquent que les bandes dessinées, les récits de bandes dessinées soient adaptés au théâtre alors qu'il y a une réelle proximité et notamment par cette distanciation que le théâtre met vis-à-vis du décor et que très facilement les auteurs de bandes dessinées mettent en place également avec cette présentation et cette mise en avant des personnages de façon très facile. Et c'est encore plus vrai avec Zaï 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 Zaï. Donc cette édition anniversaire marque vraiment le coup et permet donc à cette maison d'édition Montpellier-Rennes d'affirmer haut et fort le succès de Zaï 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 avec cet hommage. Le prix de cette édition anniversaire est de 28 euros. Effectivement, c'est un peu plus que les 13 euros de l'édition originale, mais écoutez, c'est la fête. Virgule. Alors, je voudrais poursuivre avec le dernier livre d'Aurel. Méditerranée, qui est un livre important, d'une part parce que ça fait comme une étape dans le métier d'Aurel, qui est un auteur qui a fait de la bande dessinée, du dessin de presse, du film d'animation, avec une réussite évidente. Et donc, dans Méditerranée, on va retrouver différentes compétences qu'il a acquises et qui se retrouvent assemblées et amplifiées par ce dernier titre. Alors, Méditerranée, c'est bien évidemment la mer Méditerranée et le livre a une dimension documentaire indéniable. L'auteur la revendique au fil des pages. Et il va y avoir donc une sorte d'exploration complète en profondeur de ce qu'est la Méditerranée. Déjà dans sa représentation, et là le dessin apporte une contribution conséquente, évidente, il isole simplement par le trait la forme de la Méditerranée, l'abstrait des terres qui l'entourent, les convoque quand il en a besoin, et montre ainsi par le dessin cette entité qui est essentielle et dont il va à la fois présenter l'historique, apporter une dimension culturelle avec les différents pays qui sur le pourtour méditerranéen, va faire dialoguer ainsi à la fois des historiens comme Fernand Braudel qui a écrit sur la Méditerranée et son livre a fait date, mais aussi Patrice Boucheron ou Louis-Jean Calvet. Et à chaque fois, cette apport historique va permettre de montrer comment une identité méditerranéenne, avec toutes ses facettes, va se constituer notamment par les échanges, par les routes qui vont être empruntées. Et parmi ces routes, il y a celle des migrants. Et Aurel va en faire une chaîne narrative, c'est-à-dire qu'on va avoir ce parcours, cette traversée de la Méditerranée par des migrants, avec le départ dans un des pays du Maghreb, qui n'est pas nommé, mais qui pourrait être différents pays de cette rive sud de la Méditerranée, et une chaîne narrative parce que cette narration va être convoquée tout au long du livre. jusqu'à l'arrivée donc en Europe et puis en Italie et sur l'arrivée à Paris pour le migrant qui a réussi le voyage. Donc il y a un arrière-plan essentiel puisque Aurel va convoquer aussi qu'est-ce qui fait l'imaginaire méditerranéen? Existe-t-il seulement? Comment il nous imprègne? Comment cette proximité, même donc pour nous qui sommes un peu loin de la côte, est-ce qu'il y a une dimension imaginaire de la Méditerranée qui nous imprègne, même si ce n'est pas notre culture d'origine? Tout au long de ce récit, ces questions essentielles sont posées et permet vraiment d'approfondir cette existence profonde dans nos cultures de la Méditerranée, est aussi parcouru par une autre chaîne narrative, celle où l'auteur est en entretien, va questionner un tel ou un tel et va donc présenter et représenter cette dimension où, comme dans une autobiographie, l'auteur va se représenter et va montrer des moments d'entretien qui ont un découpage particulier et qui fonctionne très bien et qui apporte une dimension d'authenticité. Il y a également une autre chaîne narrative, c'est celle de cartes un peu plus didactiques, mais avec le dessin d'Aurel, elle n'apparaissent pas ainsi, mais ça va être sur l'évolution des situations des pays du pourtour méditerranéen, comment ils ont évolué, les indépendances, tous les phénomènes de colonisation, l'apparition de différentes langues, et avec des cartes où le lettrage est différent, où le tracé lui-même est différent, le fond, c'est un papier quadrillé, un peu à la manière d'un écolier ou d'un collégien, et on a ainsi immédiatement une lisibilité sur ces différentes chaînes narratives. Et puis Aurel a un dessin, et c'est pour ça que ce livre marque vraiment une étape et est l'aboutissement de différentes créations dans différents domaines. Aurel a un trait qui a une énergie, une vivacité, qui est nourrie par les représentations du film d'animation qui exige beaucoup de maîtrise, mais beaucoup d'intensité et de vivacité. On le retrouve dans le traitement même de cette Méditerranée avec ce dessin très vivant, très énergique, et puis ce lettrage qu'il est tout autant, qui est dans la même unité de représentation de traits que le dessin lui-même. C'est aussi un très bon coloriste et le bleu de la Méditerranée apparaît avec toute son intensité. Dernier livre d'Aurel, donc qui questionne la Méditerranée et nos imaginaires. Méditerranée d'Aurel est publié par les éditions Futuropolis. Les 224 pages de ce documentaire dessiné sont au prix de 26 euros et le livre a été imprimé en France. Musique.
Le vieux sage au visage dommage m'avait dit « Prends garde au jour où le soleil sera flétri, quand les oiseaux aux oreilles de la terre chanteront de tristes requiems, quand la beauté ne sera plus qu'une image d'elle-même, quand ce qui apaise l'âme dans nos forêts ne sera qu'un mirage, quand les petites merveilles auront l'amertume d'un mauvais présage, alors la nature cessera de nous rendre hommage. Enfant, je courais crasseux dans les ruelles de ma casamance, pieds nus pour saluer les fourmis. Je me réfugiais au cœur de la forêt, petit homme parmi d'immenses arbres. En écoutant le silence faire sa prêche, j'aimais cet instant où le soleil à travers les feuillages touffus venait me sourire. Je courais teigneux à travers les sillons des rizières. Je baignais mon corps agité dans les délices du lac où les circoncis se purifiaient l'âme pour entrer à la case des hommes. Le soir, je rejoignais ma petite famille, épuisé, on s'épousait autour des caresses d'un bol d'air, et au rythme des crépitements du bois mort, emporté autant de rêves que ne reflétait d'étoiles le feu qui nous réchauffait. La lune, quand elle sortait, se trémoussait comme une perle de pluie sur mon front rêveur. Au fond, ces heures de mon enfance sont les plus éternelles. Elles datent de quand je pouvais me baigner dans une étendue d'eau de sel. Aujourd'hui, le lac n'est qu'une relique asséchée, une réplique du désert. Le soleil est en colère, la lune se cache pour pleurer et la forêt se rétracte. Il ne pleut plus chez moi, il pleure. Les terres ont soif, les hommes sont de tristes argiles imperméables au bonheur. Les greniers sont de maigres vaches et le bétail est une mauvaise récolte. La terre pleure pour que le ciel essuie ses larmes. Dans les nids, les champs se taisent, on est puni de nos propres méchancetés. La somme des risques met nos champs en jachère et les hommes ne sont riches que du sang dans leurs artères. Ils ont coupé les arbres, tendu les feuilles, scalpé les écorces, extrait la gomme. En pillant la sève, ils ont tué la forêt pour une armoire, un chevet, un lit. Combien de nids ravagés, combien d'oisillons tués, combien de lièvres, de biches éparpillées, combien d'écosystèmes ciblés, perturbés, criblés. Les fleurs forment des rangées monotones. Désormais, l'hivernage n'arrose pas plus que l'automne. La flore tombe et la faune sort avant d'aller vers la tombe, redevenant des personnes. Sommes-nous si mauvais? Si mauvais que nous n'avons plus peur de la destruction. Nous sommes les bourreaux de notre propre exécution. Et si ni les oiseaux ni les arbres ne nous créent de compassion, resterons-nous sourds longtemps au souvenir des enfants que nous étions? Chaque soir, assis sur une chaise au balcon de mes 25 ans, je me balance à la musique de la nostalgie et en secouant ma tête, j'attends que le temps me rende les beaux paysages de mon enfance. Demain, j'irai reboiser ma forêt pour espérer qu'un jour mon fils puisse courir dans les ruelles de la Casamance et se réfugier au cœur de la forêt, petit homme parmi d'immenses arbres.
Élodie Arrault a très tôt combiné le sport et la nature. Ultra Trail au Tchad, l'Ironman et en 2017 un long road trip jusqu'en Sibérie. Devenue coordinatrice d'action humanitaire, elle entreprend quelques années après un grand périple tout le long de la Grande Initiative Verte, une bande de 15 km de large et de 8000 km de long pour contrer l'avancée du désert d'est en ouest en Afrique. Elle est lancée en 2007. Dans un récit autobiographique, nous accompagnons Élodie Arrault dans 8 de ses pays traversés par la Grande Muraille Verte. Nous découvrons les nombreuses initiatives pour replanter et aussi planter avec les savoirs locaux, mobilisant groupes de femmes et d'hommes qui s'approprient toutes ces actions. Nous découvrons une Afrique contemporaine, loin des clichés tenaces des Occidentaux. Nous retrouvons ces approches d'agroécologie, d'hydrologie régénérative, dont nos sociétés ont aussi grand besoin. La mise en image est réalisée par Joël Alessandra, dessinateur, voyageur, fin connaisseur de l'Afrique subsaharienne. Cet aquarelliste a publié de nombreux carnets de voyage. Avec Dadji, il apporte, avec ses couleurs à l'eau, posées du plus clair au plus foncé, une intensité toujours animée avec le grain du papier. Ces paysages d'ouest en est, changeants, vibrent sous les teintes du dessinateur, de grandes étendues verdoyantes à la chaleur ocre du désert. Chaque double page est marquante. Nous sommes avec Élodie Arrault pour qu'elle nous guide tout au long de cette grande initiative verte, cette grande muraille verte, comme elle est communément appelée. Bonjour Élodie Arrault, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends.
Magnifique, et nous aussi, c'était ça qui était très important.
Génial, j'ai
voilà,
eu peur.
Ça y est, tout est calé.
Alors, tout est rentré dans l'ordre.
Donc, vous avez entrepris ce très long voyage, cette traversée. Oui. Alors déjà, c'est quand même aussi l'aboutissement de défis lancés, de défis sportifs, de parcours en pleine nature qui ont marqué votre parcours personnel.
Oui, oui, le parcours, enfin, mon parcours est jalonné de nombreux défis, mais ces défis, les uns après les autres, m'ont ouvert des portes et m'ont ouvert d'autres champs. Donc, le sport a ouvert la porte à l'aventure, l'aventure a ouvert la porte à la solidarité internationale, et ainsi de suite, en fait, pour arriver jusque-là.
Qu'est-ce qui a décidé votre lancement dans ce défi de traverser l'Afrique d'ouest en est tout le long de cette grande initiative verte? Parce que c'est quand même un sacré défi, on ne se rend pas compte, nous on est tranquillement installés dans nos intérieurs.
Oui, c'est un gros défi. En fait, j'avais déjà depuis un moment l'envie de traverser l'Afrique. Je l'avais imaginé de manière plus classique du nord au sud. C'est ce qui se fait de manière plus facile, entre guillemets. Et avec toujours pour idée d'aller découvrir et ensuite montrer la beauté du monde. Mais ça ne suffisait pas. J'avais envie de quelque chose qui ait profondément du sens. Et un jour, tout simplement, j'ai lu un article sur cette muraille verte et... ça a été un déclic. J'ai dit, ouais, c'est vraiment ça que j'ai envie d'aller explorer. C'est ces gens qui travaillent sur ce sujet que j'ai envie d'aller rencontrer. Et voilà, du coup, j'ai tout mis en place pour faire ce périple.
Élodie Haraud, comment ça se prépare, un tel périple? Qu'est-ce que ça représente en temps, par exemple, ou en démarche? D'ailleurs, dans le livre, vous dites à un certain moment, bah, le visa pour le Mali, je ne l'ai pas, il faut que je le prenne sur place.
Oui, ouais, ouais. Il y a plein de sujets différents. Il y a, alors, quand on part pour un voyage, on prépare un tas de trucs hein, dans ses bagages, mais là, il y a plus que ça. C'est-à-dire, le voyage est long, donc il faut prévoir une absence longue. D'un point de vue administratif, d'un point de vue enfin, sur plein de sujets, pour ses enfants, pour sa famille. Voilà. Il faut s'organiser pour que les choses se fassent en son absence. Ensuite, il peut y avoir le sujet des visas, le sujet de la santé, qu'est-ce qu'on emmène comme médicaments, comment on finance ça. Il y a plein de volets. Et puis pour le parcours en lui-même, pour l'idée que j'avais de ces rencontres, il y a aussi préparé tout ça. Ça veut dire rentrer en contact, lire un tas d'articles, être en veille sur ce sujet, contacter les associations, institutions, etc. qui travaillent là-dessus et prendre rendez-vous. Alors, rendez-vous un petit peu fictif au départ parce qu'on commence 2-3 ans à l'avance et puis un jour, ça arrive et les gens vous attendent et vous demandent quand est-ce que vous êtes là. Mais je ne peux pas dire exactement parce que je ne sais pas encore quel chemin j'avais emprunté, comment est la situation sécuritaire en ce moment? Combien de temps je vais mettre pour rouler? Est-ce que je vais crever? Est-ce qu'il va m'arriver autre chose? Voilà, donc c'est assez long à mettre en place. Mais ça pourrait ne jamais s'arrêter. On pourrait en fait continuer à préparer et ne jamais partir. Et un jour, il faut partir, même si tout n'est pas prêt.
Alors, à quel moment l'idée d'une bande dessinée est arrivée?
C'est un heureux concours de circonstances. En fait, j'avais envie d'une trace. J'avais pensé, bien sûr, un film au départ, mais finalement, quand on est en voyage, surtout à vélo, c'est compliqué de filmer. Je ne vais pas me filmer à vélo pendant X 1000 km. Et puis, en plus, c'est très intrusif, donc je n'avais pas envie de ça. Les gens aiment de moins en moins être filmés, je les comprends. Mais j'avais envie d'une trace, donc je m'étais dit peut-être j'écrirais, mais je me sentais pas l'âme d'une écrivaine, enfin du moins pas encore. Et puis finalement, après un voyage au Tchad, on m'avait offert un joli carnet de voyage de Joël Alessandra, que j'ai fini par rencontrer par l'intermédiaire d'un ami. Et puis cet ami qui s'y connaît bien en BD a dit mais il faut faire une BD de ce projet de voyage, et puis tout s'est goupillé, il est lui-même allé démarcher les maisons d'édition, et Futuropolis a dit oui, et on s'est tous rencontrés, et ça a marché, voilà, ça s'est fait, tout simplement, mais Avec beaucoup de chance.
Alors, Élodie Haro, c'est arrivé quand le voyage était terminé, cette idée d'une mémoire dessinée, ou c'est ça s'est imaginé avant et vous a donc obligé ou en tout cas incité à prendre quelques repères qui pourraient être utiles au moment de l'écriture de la bande dessinée?
Alors, ça s'est signé juste avant le départ. Ce qui veut dire que, alors, quand je voyage, généralement, j'écris, je prends des notes, mais là, encore plus. Donc, on s'est retrouvés, on s'est organisé avec Joël et l'éditeur. On s'est retrouvés à certains endroits avec Joël. Et puis, il y a d'autres pays, les pays où il n'est pas venu quand j'y étais, il les connaissait, puisqu'il y était allé avant ou après. Donc, pour lui, c'était facile aussi d'imaginer des paysages, puisqu'il y était allé. Donc, par moments, nous étions ensemble, et puis la plupart du temps, je lui envoyais de la matière, c'est-à-dire des écrits et des photos. Et après, ben, on a assemblé tout ce puzzle. Lui, il a mis en image, il a été génial, parce qu'il y avait énormément de matière, il a fallu. Tout ça.
Êtes-vous tout... Ça y est. Vous êtes revenu, donc vous n'êtes pas vraiment parti. Allô?
Non, 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 je ne suis pas partie.
Oui.
Il y a eu une coupure, je suis désolée.
Voilà, c'est... On va faire avec.
Italie, ouais, je suis loin, pardon.
Non, il n'y a pas de problème. Donc vous étiez sur l'assemblage, en fait, de ce qui a été pris par l'un et par l'autre lors
Voilà,
de ce
exactement.
voyage.
Ça a été un grand puzzle.
Quelle est votre relation à la bande dessinée, Élodie Haro? Parce que c'est se lancer dans un récit autobiographique comme celui-là, même si c'est avec un parcours très, très déterminé, qui n'est pas simplement le récit complet d'une vie. Est-ce que vous êtes lectrice de bande dessinée? Est-ce que vous avez des envies d'écriture en bande dessinée? Ou au contraire, c'est quelque chose que vous découvrez pour cette occasion?
Alors, je vais être honnête, c'est plutôt quelque chose que je découvre. Alors, bien sûr, j'ai été un petit peu lectrice, mais plutôt parce que mon papa, lui, est un grand amateur de BD. Donc, j'ai lu un peu ce qui se traînait. Mais non, je n'étais pas particulièrement une grande lectrice de BD. Par contre, j'étais très fan de Carnet de voyage. Et on peut dire que Dadji est à la fois. Enfin, c'est un documentaire écrit, un carnet de voyage, une BD, enfin, c'est tout en même temps. Donc, oui, j'étais plutôt dans le carnet de voyage en fait que dans la BD. Mais l'envie d'écrire était là. Donc c'est bien parce que c'est une bonne amorce. Je sais pas si je serais capable d'écrire un roman, mais en tout cas, retranscrire de cette manière-là, ça m'a plu et ça me donne des envies de continuer. J'ai déjà des idées.
Alors, une des caractéristiques de ce parcours, c'est la diversité des paysages. On a les paysages où on retrouve le côté très verdoyant, et cette grande muraille verte porte bien son nom, et puis il y a des ambiances de désert. Comment s'est passé vos émotions entre l'émotion vécue sur le moment et celle qui émane de la mise en image de Joël Alessandra. Comment s'est passée cette réception de ces images?
Alors, il y a une écriture quasi au quotidien. Donc celle-ci, elle retranscrit vraiment ce que j'ai pu vivre. Et ensuite, comme on a été obligé de condenser, ben j'ai réadapté quelques mois plus tard certaines choses. J'ai essayé de faire passer, et il l'a fait, les émotions du moment, mais avec aussi le recul pour faire comment dire pour faire se condenser quoi. C'est huile essentielle.
Je vous propose une pause musicale. On va se retrouver après un titre de France Gall que vous avez choisi, comme
Oui,
le premier.
les circonstances, ouais,
voilà, tout à fait.
sujet qui n'est pas nouveau, hein, vous voyez, presque 40 ans.
Et puis on se retrouve dans quelques minutes. À tout de
Merci.
suite.
Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance. ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes tout avec danse, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance, et qu'ils ne la voient pas, et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi, que le désert avance, et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence, et que c'est sur nos tombes que le désert avance.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Élodie Haro, scénariste de Dadji, qui est une sorte de carnet de voyage, écrit récit autobiographique, bande dessinée, sur la grande muraille verte qui parcourt l'Afrique d'ouest en est. Élodie Haro, il y a une dimension importante dans votre livre qui est la cause des femmes, le rôle des femmes. Tout au long de cette grande muraille verte, elles se sont appropriées des techniques, des projets. Comment s'est passé les différentes rencontres avec ces groupes et qu'est-ce qu'elles vous ont apporté?
Alors, il y a eu plusieurs rencontres. Alors, d'abord, il faut souligner que c'est un des axes majeurs du programme de la grande muraille verte. Alors, c'est redonner, restaurer les terres, recréer de l'emploi, et notamment recréer de l'emploi pour les jeunes et pour les femmes. Donc ça c'est très important. Et elle se l'approprie, d'autant qu'elle travaille en communauté. Et donc, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Et même avant de partir, en fait, j'ai voulu faire un volontariat d'échange et de compétences au Tchad pendant 4 mois. Pour m'immerger complètement sur ce sujet-là. Et là, j'étais au contact des groupements de femmes et j'ai vu comment elles travaillaient. Alors déjà, elles vous accueillent, elles sont très généreuses et elles vous montrent comment elles travaillent. Et ensuite, elles éduquent les enfants et elles font circuler de groupement en groupement. Donc en fait, il y a une espèce de tam-tam de des connaissances. Et ça, c'est merveilleux. Et elles ont toujours été incroyablement chaleureuses. Et moi, j'étais admirative parce que ces femmes, c'est elles qui creusent la roche pour faire des puits. C'est elles qui portent l'eau. Enfin, tout le temps, elles bêchent avec les enfants sur le dos. Elles sont incroyables.
Alors, il y a aussi une diversité de pays. Il y a 11 pays traversés. Il y en a 8 que vous avez pu dans lesquels vous avez pu aller, le Soudan par exemple, c'était impossible. Il y a des pays en guerre où il est fortement déconseillé de traverser, comme le Burkina Faso. Est-ce que vous suivez l'évolution de ces pays? Quel contact avez-vous pu avoir et quelles nouvelles avez-vous eues de ce projet dans ces pays?
Alors oui, j'ai été très en contact et je le suis toujours. C'est vrai que c'était le sujet majeur de cette escapade, de cette grande escapade. En fait, c'est mouvant, hein, c'est-à-dire que quand je suis partie, le Soudan n'était pas complètement en guerre. Enfin, il est en guerre depuis longtemps, mais pas à ce point-là. Donc, ça, il a fallu que je m'adapte. Et en fait, c'est plus dur de continuellement, c'est ça le plus dur, de continuellement s'adapter à ça, plutôt que de pédaler. En fait, hein, souvent, les gens retiennent que j'ai marché ou roulé, etc., pendant X 1000 km, mais le plus dur, c'était ça. Et je continue à suivre. Alors, l'Érythrée, par exemple, je sais que je ne pouvais pas passer la frontière de manière terrestre. Le Nigeria, il y avait des trop gros risques de rapt pour des questions d'argent. Après, il y avait la question, effectivement, du terrorisme au Burkina, au Mali, au Niger. Tout ça s'est dégradé depuis mon passage. Et d'ailleurs, j'ai bien fait de ne pas attendre plus parce que je n'aurais pas pu aller dans ces trois pays-là. Il n'y a plus de visa possible. Mais j'ai l'occasion de rencontrer un tas de gens avec qui je suis toujours en contact. Le plus chouette, c'est de voir que la jeunesse, vraiment la jeunesse, s'est emparée de ces sujets-là. Et je suis en lien avec eux. Ils font un travail formidable.
Il y a donc, avec ce projet, cette grande initiative verte, une réelle chance de réussite. Il y a vraiment des transformations définitives qui ont eu lieu.
Ben, moi, je suis une optimiste de nature, donc je vais vous dire oui. Et de toute façon, il faut y croire pour que ça marche. Moi, je dirais que le fer de lance, c'est cette jeunesse dont je vous parlais, puisque la démographie est tellement croissante que cette jeunesse, elle représente la part la plus importante de la population. Donc oui, si la jeunesse, il y a des chances que ça fonctionne.
Comment, sur le côté pratique, avez-vous suivi la mise en image de Joël Alessandra? Est-ce qu'à un moment, pour l'écriture du texte, vous le repreniez une fois que les images étaient là? Ou est-ce qu'il a été écrit une fois que les dessins étaient composés sur la trame imaginée au départ?
Alors, il y a eu plusieurs phases. On a une chance incroyable, c'est qu'on s'est super bien entendu. On a fait un super binôme. Et puis, lui, pour le coup, moi, autant tout seul dans ce monde de la BD, autant lui, c'est pas son premier essai. Il m'a beaucoup aidé. Il comprenait. Il avait une facilité à retranscrire. Donc, oui, il y a eu plusieurs phases. Bon, parfois, je disais, oh là, Joël, si tu mets 12 pages pour ça, comment on va faire rentrer tout le reste? Parce que c'était des endroits... Mais je disais, tu sais, moi,
on vous entend tout ce que pas j'ai bien. Vu après, j'ai... Voilà. Je ne sais pas si vous bougez beaucoup, mais
non,
là, il y a eu des pertes.
Pas, je ne bouge pas, mais là où je suis, il y a comme un épisode Cévenol, voyez-vous.
On comprend très bien, on est dans un endroit proche.
Oui, je sais bien. Je ne sais pas ce que vous avez entendu ou pas, alors, mais en tout cas, il y a eu
il faut reprendre, plusieurs phases. Voilà, sur le fait que Joël était donc fin connaisseur de la bande dessinée, puisqu'il en fait régulièrement, oui. et vous étiez plus novice.
Voilà, exactement. Donc, il a fourni beaucoup de travail. Et il me donnait, il m'envoyait des choses. Et puis, de temps en temps, il y a eu discussion sur la quantité, sur le choix. Parfois, je lui donnais trop d'informations. Il me dit non, mais il faut que le lecteur respire. Donc, j'ai compris ces doubles pages de respiration que je trouve maintenant très, très belles. Et puis après, il y a eu aussi l'éditeur qui a mis son grain de sel à la fin, qui aussi lui a fait des choix. Donc, ça a été pour 90% un travail à quatre mains et puis avec le mot final de la maison d'édition.
Par rapport à vos textes, est-ce que dans les dialogues, par exemple, est-ce que vous les exprimez à haute voix pour être sûr qu'ils sonnent juste? Est-ce que comment travaillez-vous les dialogues? Parce qu'ils sont quand même très importants tout au long de Dadji.
Oui, alors il y a des phrases qui sont tirées de ce que j'avais écrit au jour le jour, d'autres qu'il a faites lui-même. Parfois, je lui disais, je ne me retrouve pas dans la façon de dont je suis exprimée, enfin, je ne sais pas comment on dit, c'est trop masculin ou c'est trop ceci, et donc là, on a corrigé. Donc oui, c'était important pour moi de me retrouver dans ces bulles, quoi, dans ces pages. Donc, mais globalement, aux trois quarts, le premier jet était bon.
Comment vivez-vous le fait d'être représenté tout au long de ce récit?
Bah, c'est plutôt gratifiant. Moi, je trouve ça très agréable. bon, évidemment, le dessin, mon visage, c'est pas exactement ça, mais ça peu importe. En fait, c'est pas ça qui m'importait. Mais en tout cas, il a fait vivre mon personnage de manière assez fidèle. Et le plus important pour moi, c'était une trace pour ma famille, pour que ils comprennent encore mieux cette démarche, parce que pour eux, ce n'était pas forcément évident de me voir partir dans ces zones-là. Donc voilà, ça c'est fait et c'est dans nos mains. Et pour moi, c'est un très, très beau cadeau.
Quelles vont être les suites, Élodie Haraud, de Dadji? Est-ce que ça ouvre un horizon sur d'autres voyages, mais avec peut-être plus d'anticipation sur le récit qui peut en être fait?
Oui, c'est vrai que tout à l'heure, vous avez employé le mot de scénariste, mais finalement, le scénario de Dadji n'est rien d'autre que la réalité. Je n'ai pas eu besoin d'écrire un scénario. J'ai d'autres idées, je pense à ce que je vais poursuivre. Et là, je me dis, oui, peut-être qu'il faut que je réfléchisse à un vrai scénario. bon, voilà, ça serait pour une BD, mais qui ne serait pas forcément en lien avec le sujet de la désertification. Après, pour le sujet de la lutte contre la désertification, il y a un autre travail derrière, oui, en lien avec une ONG dans laquelle je rentre, au conseil d'administration. Il y a des sujets pour lesquels je vais continuer à être là, en BD ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, des deux côtés, il y a des idées, aussi bien pour le sujet de la restauration des terres que pour d'autres récits.
Et je vous remercie beaucoup, Élodie Haraud, pour vos réponses. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre, donc Dadji, mis en image par Joël Alessandra. C'est publié par les éditions Futuropolis. Les 224 pages de ce livre sont au prix de 26 euros. Et le livre a été imprimé en France. Merci beaucoup, Élodie Haraud. Et puis, très bonne continuation vers d'autres contrées.
D'autres horizons.
Merci
à vous. Et on termine juste quand la pluie revient.
Bon, pour nous, on est
bonne
en plein soleil.
Bonne soirée à vous tous. Merci de m'avoir écouté.
Au revoir.
Au revoir.
Majomena zirini ndo fauye Nyata karamuna chefaringu nandi mansa musa Fama uka fama sunjata keita kloma sama Waraba kama le aibode kanku musa nana Sanuni mansa ya, warini mansa ya Hereni horonya, bonyani fama ya Sanuni mansa ya, warini mansa ya Hereni
si le ciel t'avait abandonné, comme si les anges et les nuages étaient en randonnée. T'as beau lever les yeux, l'absence est la seule abonnée, à part ce gosse qui te regarde, le vent toujours ballonné. Pour ce gamin, y'a pas de pain, y'a pas de lendemain, à moins de se casser d'ici là-bas, au moins on tend la main. Le quotidien de cet enfant, c'est comme un mauvais rêve. À quoi te sert la foi quand les prophètes aussi font la grève, la grève. Et si tout ça n'était qu'une illusion, un mauvais sort qui veut nous mener à la démission. Que tout se casse du paradis, partir de la maison, laisser tout en rade, s'éloigner de la mission. La mission est claire, sous tes pieds il y a de l'or, et du pétrole, de l'uranium, il faut de gros efforts. La mission est claire, sous tes pieds il y a de l'or, perds pas le nord, boy, sous tes pieds il y a de l'or.
On va rester sur ces questions liées à l'eau, à tout ce qui va être, et la désertification a un lien direct avec l'eau, parce que c'est l'absence. Et c'est toujours un point qu'il ne faut jamais oublier. Le livre s'appelle « La révolution des algues ». Il est signé pour la partie dessin Étienne Lécroard et pour la partie... écrit Stéphane Bormazel, qui a participé d'ailleurs au Forum des océans. Et la révolution des algues, eh bien, porte très bien son titre. C'est un documentaire très habilement écrit. Vincent Bormazel va être présent tout au long du livre pour... expliquer ce qu'est cette révolution des algues. Alors, on va dire que on y connaît tous à peu près rien, compte tenu de toutes les informations qu'il y a dans ce livre. Ça peut apporter beaucoup de connaissances, et c'est pas des moindres. Alors, pour donner de l'ampleur à cette révolution, eh bien Vincent Bormazel va prendre par exemple une dimension historique, va montrer la présence des algues et dans le régime alimentaire des premiers hommes, il pouvait y avoir des algues. Alors ça déjà, ça commence un peu plus à surprendre. Et donc dans toute cette partie historique, il y a vraiment cette chaîne narrative de l'emploi des algues, de la consommation d'algues à travers différents moments de l'histoire, chez les Vikings par exemple, qui ramenaient et sur les chemins du retour ou prenaient des algues. Et comme dit l'un des Vikings dans la bande dessinée, il faut peut-être pas que ça s'ébruite parce que pour l'image, c'est quand même pas terrible terrible. Et donc, ça, c'est les surprises historiques. Et puis, en fait, Vincent Bormazel va tirer le fil de façon très astucieuse, à la fois sur le potentiel, les possibilités étudiées, avérées, sur les difficultés à les mettre en chantier, sur les dégradations qui sont effectuées sur les algues existantes. Et il y a 12 500 variétés d'algues. Et elles ont des vertus extrêmement importantes. Et j'appuie sur le mot extrêmement parce que, au fur et à mesure que l'on découvre ces propriétés dans ce livre, on est vraiment estomaqué. Révolution des algues, parce qu'en fait, elles peuvent très bien être des solutions à bon nombre de problèmes qui sont des problèmes à la fois de pollution, de problèmes de consommation carnée, d'alimentation des animaux, avec des risques de pathologie lorsque le régime alimentaire n'est pas adapté. Et qu'en fait, beaucoup de régulations, de solutions sont apportées par tel ou tel algue. Et quel que soit le pays dans le monde, il y a une tradition et une histoire de la consommation d'algues, que ça soit en Amérique du Sud, au Japon par exemple, ou en France, dans des pays occidentaux. À chaque fois avec des caractéristiques différentes, et on remarque à chaque fois qu'il y a un moment, une coupure avec tradition, une connaissance et qu'il faut absolument réapprendre. La lecture de cette révolution des algues tient beaucoup aussi à la mise en image et au dessin d'Étienne Lécroard. Étienne Lécroard, c'est vraiment un auteur, dessinateur qui aime la contrainte, par exemple. Il a développé des contraintes en bande dessinée à la manière de Lou Lippo, mais cette fois avec Lou Bappo, l'ouvreur de bande dessinée potentiel. Il a créé, par exemple, un palindrome en bande dessinée, c'est-à-dire une bande dessinée qui va se lire à l'endroit et à l'envers. Alors vous imaginez, parce qu'on ne change pas les cases. Mais donc la case de la fin de l'histoire va devenir le début de la deuxième qu'on va lire dans l'autre sens. Donc c'est un auteur qui aime se prendre la tête, mais au bon sens du terme. Et là, dans la mise en image, comme dans le dessin, il y a une efficacité narrative qui est assez remarquable. Déjà, simplement la mise en image avec donc ce choix d'une représentation assez stylisée, assez ironique. On n'est pas dans un dessin réaliste, mais il y a l'utilisation du crayon de couleur qui va animer constamment les couleurs et qui fait qu'on va avoir un dessin très vivant. Il y a l'absence d'un trait noir de contour, on utilise une nuance de la couleur employée, une nuance un peu plus foncée, et on a ainsi un trait de contour et une légèreté dans la lecture qui rend cette lecture d'autant plus facile et nous permet de prendre toute la dimension du texte. Il y a une régularité, il y a une façon de mettre en perspective, d'utiliser la double page au moment opportun, d'avoir un tracé des dialogues avec un lettrage qui est suffisamment de petite taille pour pouvoir, sans envahir la case, donner des informations conséquentes et rester parfaitement lisible. C'est un peu un art, un numéro d'équilibriste, mais là, Étienne Lécroard est parfaitement à l'aise. Il y a aussi une façon d'apporter de l'ironie avec des contrepoints, comme par exemple ce viking qui dit bah ouais, bon, il ne faut peut-être pas que ça s'ébruite qu'on mange des algues, parce que notre matricule, il va en prendre un coup. Et donc, ces petites pointes d'humour vont arriver très régulièrement, et là aussi, la lecture en devient vite réjouissante. Et c'est d'autant plus important que ce documentaire dessiné sur les algues et la révolution des algues, mais il est pleinement opportun au moment où on pose toutes ces questions sur le réchauffement climatique, sur la planète, sur les pollutions, sur ce qui n'est pas fait, avec toujours ces arguments, mais on peut pas le mettre en place. Eh bien là, à chaque fois, il dit non, on y va, on a tout ce qu'il faut, tout est là, et il y a des fermes où donc maintenant on cultive les algues. Il y a toute une partie à la fin du livre qui montre ce qui est en chantier, ce qui est fait, et ça aussi, c'est extrêmement réjouissant. Il y a donc une réserve d'arguments dans ce livre qui est tout à fait réjouissant, parce que on en a besoin. Hein. Les capitalistes tenaces et pugnaces en face sont un peu durs de la feuille, et donc là, il va falloir qu'ils révisent leur copie et qu'ils s'engagent définitivement dans le bon sens. C'est ce à quoi nous permet d'espérer ce livre, La Révolution des Algues, mis en image par Étienne Lécroard et mis en récit par Vincent Bourmazel, c'est publié par les éditions Futuropolis. Les 124 pages de ce documentaire dessiné sont au prix de 21 €, et c'est aussi un livre qui a été publié en France. C'est la dernière de l'année, il y aura quelques rééditions tout au long de cet été, et puis on se retrouve avec... Et j'ai déjà quelques pistes très sérieuses, un beau programme pour la rentrée. Bon été à tous sur les ondes de Radio Escapade.
écriture dessinée.